Bonjour à toutes et à tous, nouvel épisode d'Europa Voice, épisode 82. Comme d'habitude, on retrouve avec nous Nathanaël Bloch. Bonjour.
Bonjour Grégory.
On va revenir sur les élections régionales qui se sont jouées en France. On ne va pas revenir sur les résultats précis. En gros, les sortants ont été réélus. Il n'y a pas eu vraiment de surprise au final dans ces élections. On donnait par exemple le Rassemblement National très fort, potentiellement vainqueur en Provence. Ça n'a finalement pas été le cas. En revanche, ce que ça a marqué ces élections régionales, Nathanaël, c'est que c'est vraiment le début de la campagne présidentielle qui aura lieu dans moins de 10 mois maintenant.
Oui, tout à fait, Grégory. Finalement, comme on n'a pas eu de surprise et qu'on est resté sur une cartographie qui est assez similaire aux dernières régionales, mais qui n'a rien à voir avec la cartographie, j'allais dire, de l'Assemblée actuelle, avec un groupe encore au présidentiel majoritaire, certains se voient pousser des ailes. Et donc, les mécanismes en vue de la présidentielle se mettent en œuvre, autant à droite qu'à gauche, que du côté du Rassemblement national, où on espérait des résultats un peu plus positifs, hein, notamment dans le Sud, en PACA, par rapport à ces élections régionales.
Alors, on va peut-être commencer par ça, justement, par le Rassemblement national. Globalement, c'est un échec très lourd, ces élections. Ils ont perdu des centaines d'élus partout en France. Et pourtant, le congrès du Rassemblement national vient d'avoir lieu à Perpignan. Marine Le Pen n'est pas contestée. Elle va vraisemblablement partir pour une troisième tentative à l'élection présidentielle l'année prochaine. Et en gros, le message, c'est ces élections n'ont rien à voir avec l'élection présidentielle. Donc au final, certes, c'est un échec cuisant, mais nos chances l'année prochaine sont toujours intactes. C'est à peu près ça, non ?
Oui, c'est tout à fait ça, Grégory. Mais alors, c'est tout à fait ça aussi pour une raison qui est très simple. C'est que dans les Hauts-de-France, aux dernières élections régionales, le candidat, d'ailleurs, qui vient de la droite, hein, Sébastien Chenu, a fait un score bien moins important que ne l'avait fait Marine Le Pen aux dernières élections régionales. Donc, d'une certaine façon, Marine Le Pen, ce qu'elle fait, comme vous l'avez mentionné, c'est qu'elle décorrèle ces élections régionales de l'élection présidentielle. Et surtout, elle n'a pas été mise en danger par le candidat Chenu. Hein. Ils sont pas en opposition, mais on aurait pu attendre, effectivement, s'il y avait une surprise dans les Hauts-de-France, ça aurait pu contester le leadership de Marine Le Pen. Mais ça n'a pas été le cas. Et puis, d'une certaine façon, Grégory, de manière assez cynique, machiavélique, le fait, justement, que le Rassemblement national n'ait pas réussi à percer, ça montre aussi que personne n'est en mesure de contester le leadership, même s'il est affaibli, mais personne n'est en mesure de contester le leadership de Marine Le Pen. On n'a pas encore un Emmanuel Macron au Rassemblement national qui est capable de créer une dynamique. Donc effectivement, pour le Rassemblement national, c'est une non-élection. Et l'important maintenant, c'est de se mettre en ordre de marche pour la présidentielle. Après, avec des tactiques qui vont être différentes des élections de 2017. On ne sait pas encore, par exemple, si la candidature proclamée d'Éric Zemmour va lui servir de lièvre ou si elle va lui mettre des bâtons dans les roues. Mais en tout cas, pour Marine Le Pen, hein, c'est véritablement cap sur la présidentielle.
Alors, Éric Zemmour, vous l'avez mentionné, effectivement, il n'est pas encore officiellement déclaré. Pourtant, il y a des affiches de lui un peu partout. Il est allé fleurir la maison natale du général de Gaulle. Enfin, ça fait quand même très en course pour la présidentielle, tout ça. La question que je me posais, c'est quand il rentre en jeu, effectivement, est-ce qu'il risque davantage de prendre des voix à Marine Le Pen, à la droite classique, ou de faire voter des abstentionnistes ?
Ce qui est très compliqué, Grégory, c'est que quand quelqu'un est testé pour la première fois dans les sondages, on n'a pas d'éléments de comparaison. Ça, c'est la première chose, que ce soit Éric Zemmour ou que ce soit quelqu'un d'autre. Donc, c'est très difficile, en fait, d'essayer d'interpréter ce que va capter Éric Zemmour par rapport à d'autres électorats quand c'est la première fois que vous le testez dans les sondages. Éric Zemmour, c'est une des premières fois qu'on le teste dans les sondages. Ça, c'est le premier élément. Ensuite, le deuxième élément, c'est que c'est aussi compliqué parce qu'il n'y a pas encore de candidat désigné à droite de savoir si Éric Zemmour va aller piquer des voix à la droite traditionnelle parce que ça va dépendre en fait de chaque candidat que vous allez tester. Et donc, il y a beaucoup trop de facteurs pour l'instant qui ne sont pas connus pour dire Éric Zemmour prend des voix à la droite classique. Moi, je crois par contre qu'il y a quelque chose là qui se vérifie dans chaque élection, c'est qu'entre un premier tour d'une élection présidentielle et un deuxième tour d'une élection présidentielle, il vous faut des réserves de voix. C'est-à-dire, il vous faut des voix pour créer une autre dynamique en vue du deuxième tour. Donc moi, je crois que c'est cet élément-là qu'il va falloir analyser d'un point de vue du Rassemblement national, c'est est-ce que Éric Zemmour est capable, au premier tour, de capter des voix qui ne sont pas que des voix du Rassemblement national, mais de capter aussi des voix, par exemple, je ne sais pas, moi, chez des candidats un petit peu hors système, du Pont-Aignan, chez la droite républicaine, même chez des gens qui l'apprécieraient, par exemple, parce que, pour sa notoriété médiatique, etc. Et c'est 5-7%, puisque pour l'instant, il est donné à 5%, Grégory, dans un des derniers sondages que j'ai vus, et bien, est-ce que ces 5-7% pourraient constituer, pour Marine Le Pen, une réserve de voix qui ne serait pas égale à 5-7%, mais même si c'était 3 ou 4%, et donc qui lui permettrait d'augmenter son score et de gagner au second tour de l'élection présidentielle. Je crois que c'est cet élément-là, pour l'instant, qu'on doit vérifier et qui est le plus, j'allais dire, analysable au vu de la situation sur le reste de l'échiquier politique.
D'accord. Alors, on continue la tournée. Il y en a un pour qui ces régionales ont vraiment été un déclencheur. C'est Xavier Bertrand qui a été réélu très largement à la tête de la région Hauts-de-France et qui se voit donc comme le candidat de la droite. Sauf que justement, c'est un peu plus compliqué que ça. C'est lui, parmi les personnalités de la droite traditionnelle, qui est placée le plus haut dans les sondages. Mais justement, ses anciens camarades des Républicains ont publié tout récemment une tribune l'appelant, lui et d'autres, à organiser et à participer à une primaire de droite à laquelle il n'a absolument pas l'intention de participer, si j'ai bien compris.
Vous avez tout à fait bien compris, Grégory. Alors, sur la primaire, d'abord, premier élément, et c'est ça qui est intéressant. Et d'ailleurs, j'aimerais mettre cet élément, le considérer de manière plus large que simplement la droite. On a emprunté le principe de primaire aux élections françaises, dans les dernières élections françaises, aux États-Unis. C'est quelque chose qui n'existait pas en France. Ça a été, j'allais dire, emprunté au système américain et ça a été introduit dans les 10 dernières années dans les élections françaises. Ce qui, en fait, pour moi, alors j'ai une position un peu tranchée, ça ne correspond absolument pas au système politique et électoral français. Et on l'a vu, hein, à chaque élection, vous avez quand même un petit peu ces primaires égale machine à perdre. Parce que ça vous montre, parce que déjà, en fait, on est dans des primaires où vous avez à chaque fois pléthore de candidats, ça montre des dissonances extrêmement fortes en interne. Je ne parle même pas à gauche où finalement certains ont donné le mot d'ordre de même pas voter pour le candidat du parti. Et puis là, un point plus spécifique à la droite, c'est que, et notamment depuis Nicolas Sarkozy, et depuis 2007, on avait quand même cette idée qu'à droite, le candidat était celui qui était naturellement le chef, celui qui arrivait à sortir des cordes. Naturellement, qui était notamment à l'époque le chef du parti.
Alors, j'entends bien que la primaire n'est pas dans la culture politique française et que jusqu'à présent, effectivement, tout le monde se rassemblait d'un seul homme derrière le chef naturel. Sauf que dans le cas de la droite, mais d'ailleurs de la gauche aussi, on y viendra peut-être après, pour l'instant, un chef naturel, il n'y en a pas.
Oui, mais alors, et c'est là où finalement, on a peut-être collectivement, j'allais dire, mal joué, c'est que c'est difficile aussi de paraître comme un chef quand vous êtes mis vous-même, je ne parle pas de Xavier Bertrand, je parle de tous les candidats de droite qui sont mis en retrait du parti. C'est-à-dire qu'en fait, c'était inconcevable avant de mener une aventure personnelle en dehors du parti. Et donc, en fait, ça paraît compliqué d'être le chef naturel d'un parti si vous-même, vous êtes resté en dehors, enfin, vous êtes mis en retrait de ce parti-là. Et c'est ça aussi un peu la contradiction et le fait qu'on ait adopté un système qui n'était pas cohérent avec le système français. Et donc, pour moi, on va peut-être revenir, justement, après cette élection-là, à ce système-là où un candidat naturel va émerger. Et encore une fois, hein, le candidat naturel, c'est celui qui est le chef du parti. C'est celui qui a mis le parti en ordre de bataille. Mais maintenant, vous ne pouvez pas attendre des candidats de droite, notamment, qui vous disent qu'il faut être le chef du parti pour se présenter à l'élection présidentielle. Et puis, ça tombe bien parce que Christian Jacob n'a pas fait état de sa volonté de se présenter à l'élection présidentielle. Mais ce que je veux dire par là, c'est que la droite s'est un peu tirée elle-même une balle dans le pied en disant à la fois « je me mets en dehors d'un parti qui ne me rassemble plus » et « je vais être le chef ou je suis moi-même le chef naturel du parti ». Et maintenant, pour parler très concrètement, à droite, on a deux positions qui semblent se dessiner. Vous avez les candidats qui reviennent dans le giron du parti, c'est-à-dire, bon, allez, assez d'amusement, ça y est, Christian Jacob a refait un travail, a travaillé sur les bases, sur les fédérations, etc. On peut remettre le parti sur les bons rails. Et donc, on appelle à une primaire ouverte de la droite et du centre. Reste à définir les modalités, est-ce que vous voulez la réserver aux adhérents ou vous l'ouvrez aux sympathisants sur une déclaration d'honneur. Et puis, vous avez des candidats comme Xavier Bertrand, qui lui reste finalement sur une position assez sarkozyste, tout en étant en dehors du parti, en disant « bah non, un candidat pour une élection présidentielle. Et là, je cite hein, c'est mon langage qui appelle sur le plateau, c'est la rencontre entre un homme, une femme et les Français. Et donc, c'est finalement moi, en tant naturellement intronisé chef de file de ce courant idéologique-là qui doit représenter la droite et me présenter. Mais vous voyez, on est maintenant, la droite, mais la gauche aussi, est prise un peu à son propre piège d'avoir voulu introduire ce mécanisme de primaire qui, encore une fois, hein, je le rappelle, n'a donné que des échecs retentissants pour les partis républicains français à gauche et à droite.
Ouais, en tout cas, ouais, il va falloir que ça se décante un petit peu parce qu'il y a effectivement beaucoup de prétendants pour l'instant, mais aucun qui se démarque particulièrement. Et c'est pareil d'ailleurs à gauche, il y a une primaire écolo qui a été lancée, il y a 5 candidats déclarés. Il y a aussi la maire de Paris, la socialiste Anne Hidalgo qui a des velléités présidentielles. Mélenchon qui est toujours dans le paysage, même si il baisse énormément ces dernières semaines. À gauche, justement, un point rapide sur ce qui s'y passe. Ça a l'air d'être un peu le bazar aussi, un peu comme la droite, il y a beaucoup de monde, mais personne qui vraiment sort du lot.
Alors à gauche, je pense hein, que ces dernières années, on a en plus, j'allais dire, des problèmes qu'à la droite, on a un véritable problème de définition du corpus idéologique. C'est-à-dire que si en plus vous n'avez pas de corpus idéologique et qu'en gros vous avez ce déchirement constant entre, pour synthétiser, simplifier, la sociale démocratie et une gauche qui tend plus du côté de l'extrême gauche, vous n'arriverez jamais à avoir un candidat capable de concilier ces deux tendances-là. Donc, ce qui en plus, j'ai l'impression, se rajoute du côté gauche de l'échiquier français, c'est qu'on n'a pas encore clarifié quel est le corpus idéologique que le Parti socialiste veut porter. Et puis, c'est assez intéressant aussi parce qu'on a presque l'impression que, rappelez-vous, il y a quelques années, en fait, on avait une candidature naturelle de la gauche, du Parti socialiste. Et puis après, on avait des discussions pour savoir à quel moment on faisait une gauche rose, verte, rouge. Hein. C'est-à-dire, est-ce que c'était un rassemblement dès le premier tour? Est-ce que finalement, les écologistes allaient se greffer dès le deuxième tour, etc. Là, on a presque l'impression que le lead va être porté par une autre composante de la gauche plurielle, les écologistes notamment, et que le Parti socialiste va jouer finalement le rôle de celui qui, in fine, se ralliera au seul capable d'avoir encore à l'heure actuelle, aujourd'hui à gauche, un corpus idéologique, à peu près fixé, à savoir les écologistes. Parce que Jean-Luc Mélenchon, lui, est d'un côté trop extrême de l'échiquier pour être capable de porter ce rassemblement dès le premier tour. Alors que les écologistes, on l'a bien vu hein, ces dernières années, que ce soit sous François Hollande ou même sous Emmanuel Macron, on est capable en France maintenant d'avoir une écologie de gouvernement à droite comme à gauche.
Les écologistes sont globalement bien progressé ces dernières années sur un certain nombre de scrutins municipaux. Il y a plusieurs maires de grandes villes, élections européennes, élections régionales, en tout cas dans certaines régions. En revanche, à la présidentielle, ils ont toujours fait des scores assez mauvais. Je crois que le meilleur score historique des Verts, c'est Noël Mamère avec environ 5%. C'est quand même pas terrible. Est-ce que, même si c'est derrière eux que se rallie la gauche traditionnelle, on va dire, la gauche de gouvernement, est-ce qu'ils peuvent véritablement espérer faire un score correct?
C'est tout le débat, Grégory. En fait, encore une fois, la question, c'est est-ce que pour une présidentielle et la manière dont la 5e République fonctionne, c'est un mécanisme en deux temps. C'est-à-dire que est-ce qu'au premier tour, vous êtes capable d'avoir un rassemblement assez large qui vous promet soit d'être qualifié pour le second tour, soit d'avoir une place importante de gouvernement pour le second tour. Sur ce dernier exemple, je prends l'exemple du Modem, hein, qui a bien réussi à faire ça aux dernières élections et à devenir un allié important, ou en tout cas au premier plan du gouvernement Macron. Donc ça, c'est pour le premier tour. Et puis au deuxième tour, c'est de savoir si vous avez une dynamique qui a été créée pour avoir les réserves de voix suffisantes pour gagner une élection présidentielle. Donc, comme les autres partis, ou en tout cas pas moins, pas plus que les autres partis, le parti Les Verts, le parti écologiste, va être confronté à cette question-là. On n'en est pas encore sur la question des réserves de voix et de dynamique pour le second tour, on en est à la question d'un socle suffisant pour faire un bon score au premier tour. C'est évident que si c'est simplement Les Verts seuls, comme vous avez signalé, comme vous l'avez mentionné, Noël Mamère, non, ça ne fera pas un score suffisant. Mais encore une fois, la question, c'est plus, est-ce qu'on est capable d'avoir des Verts qui vont être les candidats naturel d'une gauche plurielle républicaine pour le premier tour. Je crois que c'est vraiment ce qui est en train de se discuter. Encore une fois, le problème, c'est que comme les Verts sont aussi devenus un parti de gouvernement, ils sont devenus un parti de gouvernement courtisé. Et puis, on a eu des Verts au gouvernement Sarkozy, on a eu des Verts au gouvernement, mais aussi des Verts au gouvernement, enfin des bonnes prises, j'allais dire, chez l'adversaire, de Verts au gouvernement Macron, hein, Barbara Pompili, par exemple, Nicolas Hulot. Donc voilà, la question, ça va être aussi chez Macron, de quelle manière on va être capable de siphonner aussi cet électorat vert. Donc voilà, il y a plein de questions qui restent en suspens, mais en tout cas, à gauche, pour moi, c'est. On sait à droite, on sait quel parti hein, va être le parti de la campagne de la droite républicaine aux prochaines élections. À gauche, honnêtement, Grégory, j'en suis moins sûr, et on n'est pas, encore une fois, à l'abri d'une surprise et d'avoir un ou une écologiste. Qui va conduire une liste de gauche plurielle de gouvernement pour l'élection présidentielle.
Ok, j'avais quand même une dernière question. Emmanuel Macron, dans tout ça, est-ce que parmi toutes ces volontés, il y a quelqu'un qui peut vraiment rivaliser avec le président sortant, ou est-ce que inévitablement on va se retrouver encore sur un deuxième tour Macron-Le Pen?
Honnêtement, Grégory, je ne vais pas me baser sur les sondages qui ont lieu bien trop en amont de l'élection et qui peuvent vous donner qui donne des résultats, en tout cas des pistes trop difficiles à interpréter. Le seul élément, c'est qu'il y a un sondage qui, pour la première fois, a donné, dans l'ensemble des sondages, un deuxième tour qui n'était pas Emmanuel Macron, Marine Le Pen. C'était un sondage, je ne me rappelle plus le nom de l'institut, mais c'était un sondage qui donnait Xavier Bertrand, si c'était le candidat de la droite, et Marine Le Pen au second tour. Mais au-delà de la question des sondages, ce qui est intéressant, c'est de voir que de ces régionales, Emmanuel Macron en a fait un non-événement. C'est vraiment, on a l'impression que dans la séquence politique, la séquence de communication présidentielle, allez, ça y est, les élections régionales ont eu lieu, on passe à autre chose. Puis c'est compréhensible, hein, parce que les scores de La République En Marche n'ont pas donné satisfaction. Pour moi, la vraie question, c'est la question de l'appareil. C'est la question de savoir est-ce que Emmanuel Macron va avoir un appareil présidentiel, un parti assez puissant, assez mobilisé sur le terrain pour faire campagne. Donc c'est la question en fait de savoir est-ce que La République En Marche est une coquille vide ou est un véritable mouvement capable d'aider un candidat qui est maintenant établi en vue d'une campagne pour une élection présidentielle. Pour moi, c'est ça le véritable enjeu d'Emmanuel Macron, c'est de structurer son parti et d'en faire un parti comme la droite, là actuellement, retrouvée d'une certaine façon, comme la gauche lavée et ne l'a plus, mais comme la gauche lavée. Et pour moi, c'est ça la véritable question. Et plus que les sondages qu'on voit actuellement, c'est de savoir si derrière Emmanuel Macron et sa candidature, on a un parti capable de faire campagne et de faire réélire un candidat, un président pour la prochaine élection présidentielle. Et c'est à mon avis, on va assister à beaucoup de changements de personnes pas forcément médiatiques, mais à beaucoup de changements au sein de l'organigramme La République En Marche dès la rentrée.
Très bien. Ben, merci beaucoup, Nathanaël, pour ces éléments d'analyse. On se retrouve bientôt pour un nouvel épisode d'Europa Voice.
Merci beaucoup, Grégory.